Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Jusqu'à 9h, Good Morning Business.
Le dossier Atos, le gros dossier du moment, le choc. Hein, je vous rappelle qu'hier, l'action a perdu quasiment 20% de sa valeur. Atos, ça ne va plus en bourse que 1,74€. Le groupe est plus que jamais au bord du précipice. On a donc convoqué les meilleurs experts.
Ça, c'est l'action, mais le groupe, c'est 200 millions. C'est pas beaucoup, mais c'est un petit peu plus.
Oui.
L'action. C'est pour donner une valeur
qui vaut 1,74€, absolument. Donc on a convoqué les meilleurs experts. François Chollet, président de Montségur Finance. Guy Mamoumani, vous êtes coprésident d'Open, ancien président du Syntec. Mathieu Pechbertier et Frédéric Simotel qui suivent bien sûr ce dossier. On attendait les résultats d'Atos. Est-ce qu'on sait à un moment donné si on va les avoir, Mathieu?
Alors à un moment donné, on les aura. Mais quand, personne ne sait. On devait les avoir fin février. Puis fin février, Atos nous a dit, bon, finalement, vous les aurez le 20 mars. Et effectivement, hier, Atos nous a dit qu'il les publierait dans un futur proche. Alors, moi, on me dit que ça ne sera pas d'ici la fin de la semaine. Donc, voilà. Et ça, c'est typique, ce que vous dites, cette incertitude qui plane de manière constante dans ce groupe depuis un an sur la communication financière. Et ce n'est pas que de la communication, parce que derrière la communication financière, il y a des comptes. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans les comptes? Qu'est-ce qu'on met dans les comptes? Qu'est-ce qu'on sort? Qu'est-ce qu'on ne sort pas? Enfin, tous les investisseurs et les créanciers, c'est très important, mettent un gros point d'interrogation sur, en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte.
Mais François Chollet, ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire que les comptes ne sont pas certifiés par leur commissaire?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un compte d'exploitation qui a été communiqué par le groupe. Hein, donc, on connaît les chiffres d'activité.
Ouais, mais le bilan
pour Atos, le problème, c'est le bilan.
Et le cash.
Et au bilan, il y a ce qu'on appelle des survaleurs, c'est-à-dire tous les écarts d'acquisition d'une politique de croissance externe qui a été menée par le groupe pendant de nombreuses années. Mmh. Et ces écarts d'acquisition, eh bien, il faut en mesurer la valeur. Et c'est validé par un commissaire aux comptes qui doit s'exprimer pour dire à combien on réévalue les participations qui ont été acquises dans le bilan. Et donc, c'est là que se situe le gros problème.
On ne sait pas combien veut Atos, en fait.
Parce que ça peut aussi, cette dépréciation de valeur, générer un résultat, cette fois-ci non plus d'exploitation, mais financier, négatif, extraordinaire pour Atos, et venir mettre en péril, évidemment, la stabilité du bilan. Donc, toute la clé, c'est la difficulté qu'a le groupe aujourd'hui de s'accorder avec le commissaire aux comptes pour donner un vrai prix au portefeuille d'acquisition qui a été immobilisé dans le bilan.
Qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a dit...
Alors, lorsqu'on est actionnaire d'Atos aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire, vous êtes rincé. Il n'y a plus rien. Ouais. Vous avez un groupe qui fait 10 milliards, un peu plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui vaut moins de 200 millions d'euros, c'est-à-dire qu'il vaut zéro.
Il ne vaut rien, quoi.
Donc, la valeur d'une entreprise, c'est la capitalisation boursière et aussi la valeur de ses dettes. Et donc, c'est bien au niveau de la dette que se fait la valorisation d'Atos. Et cette dette, aujourd'hui, est un grave péril, puisque là aussi, le marché la cote avec une décote absolument astronomique. On dépasse même, je crois, celle de Casino Rally, puisque ça cote entre 18 et 25% du nominal des émissions de dette d'Atos. C'est là qu'il n'y a plus aucune crédibilité. Et tout simplement parce que, de toute façon, toutes ces discussions sur le bilan d'Atos viennent mettre en péril l'ensemble des accords avec les banques, avec les créanciers.
Et pourtant, sur le plan industriel, Guy Mamoumani, on continue de travailler. On racontait ce matin les contrats avec les Jeux Olympiques sur la cybersécurité, sur les passes. C'est quand même une boîte qui a signé des contrats. Il y a 100 000 personnes qui bossent et qui continuent.
Ah oui, c'est absolument désolant, cette situation, parce que Atos est une boîte de très grande qualité industrielle.
On parle de 100 000 salariés. Hein.
Oui, c'est 100 000 salariés. Mais c'est
dans le monde, oui.
Mais vraiment, des savoir-faire. Alors bon, bien sûr, l'analyse financière, parfaitement juste, est-ce qu'elle est? Mais personnellement, j'ai un regard beaucoup plus industriel. D'abord, en tant que partenaire, bon, même si je ne suis plus coprésident d'Open, je continue à suivre ses activités. En fait, on signe de très nombreux contrats, jusqu'à maintenant, entre Open et Atos comme partenaires. Nous travaillons avec des gens de très, très grande qualité. Il y a un fonds de commerce qui est formidable. Hein. Donc là, on a une situation absolument désolante, parce qu'on a d'un côté un fonds de commerce, des salariés, des clients, des contrats, un savoir-faire très important, et en même temps, cette situation financière qui est complètement catastrophique.
Mais c'est pour ça qu'on espérait, qu'on attendait un repreneur sur les différents de branche d'activité dont vous allez nous parler, Frédéric. C'est vrai que c'est comme la distribution, c'est comme Casino, il y a des salariés, il y a des supermarchés, ils ont été repris, la vie va continuer. Sauf que là,
On est vraiment... que c'est pas fini. Hein.
Ah ouais, mais c'est
je
ça.
Je pense que c'est pas fini parce que ce fonds de commerce, il vaut quand même beaucoup d'argent.
Alors justement, Frédéric, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans, comme technologie, comme compétence chez Atos ?
Alors aujourd'hui, ils avaient séparé en deux. Il y a la partie Tech Foundation qui est le métier historique d'Atos, hein, qui est l'ADN d'Atos, c'est de l'infogérance, voilà, c'est de la gestion de parc. Ils ont des très gros contrats. Alors malheureusement, ils en ont beaucoup vendu parce qu'à un moment, il fallait faire tourner le chiffre d'affaires. Beaucoup de ces contrats sont vendus à perte, donc ils font pas de marge. Donc tout ce qui tourne aujourd'hui, ça alourdit encore la perte. Et l'autre partie, c'est ce qu'on appelle, alors ils l'ont rebaptisé Evidence. C'est là où il y a tout ce qui est big data, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est supercalculateur. Et là, oui, il y a quelques... Il y a... Pareil, de gros contrats. Il y a aussi des très gros contrats avec l'armée, avec le... C'est la gestion du parc nucléaire français, c'est Atos. Les systèmes, il y a des systèmes de navigation dans Rafale, c'est Atos. Des systèmes de sécurité dans les chars Scorpion, c'est Atos. Donc, ils sont très présents dans tous ces univers-là. La cybersécurité, c'est une activité d'environ 500 millions d'euros. Les supercalculateurs, c'est 700 millions d'euros. Et on sait qu'aujourd'hui, ce sont des secteurs... c'est l'IA, c'est la cyber, c'est le cloud, c'est tous les secteurs sur lesquels il faut avancer. Donc, et là, ce qu'on regrette, c'est qu'il faut aussi... de la même façon, assainir un peu la situation. Donc, revoir un peu toutes les marges des contrats. Et puis, de l'autre côté, bah, c'est la relance. Alors, il y a des contrats qui sont signés. Ils ont gagné la construction d'un super calculateur en intelligence artificielle avec Novo Nordisk en Europe du Nord. Mmh. Ils ont signé avec Microsoft sur l'IA générative. Donc, on voit que ça continue à bouger. Par contre, pour des clients, vous imaginez bien, il faut... une ligne claire stratégique dans chacun de ces domaines.
Mathieu Pechberti, du coup, tout ça en face, ça intéresse qui ? Ça fait 2 ans que David Layani est sur le dossier. Est-ce qu'il est toujours là ?
Alors, en fait, les repreneurs qui étaient là le sont en fait toujours. Ils attendent de voir comment l'assurance va évoluer. Mais il y a, en gros, oui, alors David
Même
Layani...
Même ceux qu'on dit, on arrête.
Et oui, mais c'est toujours le cas dans ce genre de situation. Ils disent non, et puis ils reviennent ou quand on vient les chercher ou quand une procédure judiciaire est ouverte. Il y a d'abord donc David Layani, qui lui est déjà, on va dire, dans la société, puisqu'il est premier actionnaire d'Atos.
Vous vous souvenez quand il était venu sur ce plateau, le premier jour de son offensive, même vous nous aviez dit, mais c'est un petit pousset, quoi, il n'arrivera jamais à valer Atos.
Alors oui.
Aujourd'hui...
Je reprenais une expression d'ailleurs de l'ancien président d'Atos, Bertrand Meunier, qu'il avait qualifié ainsi. Mais effectivement, c'est le repreneur, on va dire, le plus tenace. Mais qui a le moins d'argent. Il a 11% du capital d'Atos, il est au conseil d'administration, il est aussi partenaire industriel d'Atos, il essaie de rentrer un petit peu de tous les côtés dans cette société, et il est plus que motivé, il est complètement obsédé par cette société, ouais, qu'il
mais
veut
c'est
racheter.
C'est surtout le digital qui l'intéressait.
Alors voilà, exactement. En gros, si c'est pas l'infogérance qui l'intéresse véritablement, même s'il va faire une offre de reprise globale d'Atos. Tout ce qui est cybersécurité, supercalculateur, ça on l'a compris, ça ira dans une poche où l'État aura un œil dessus. Et lui, c'est surtout le reste qui l'intéresse, notamment les activités dédiées au cloud. Et lui, en tout cas, il est bien décidé à mettre de l'argent dedans, à apporter sa société à Atos, bref, à faire une sorte de mécano. Et puis il y a Daniel Kretinsky quand même, ouais, dont on a parlé par le passé,
qui lui était les d'accord pour reprendre la
historique d'Atos. A priori, Airbus ne reviendra pas.
François, je vous laisse intéressant ce débat, parce que là on commence à comprendre, on se dit que c'est une belle boîte, il y a des talents, il y a des belles activités. Donc qui est responsable à un moment donné ? Est-ce que ce sont les investisseurs, les créanciers qui ont trop prêté et qui ont pris trop de risques alors qu'on voyait bien que la boîte est en train de couler parce que le management était peut-être défaillant ? C'est quoi le problème ? Ça vient d'où ?
Il y a un problème technique à une défiance comme celle que nous connaissons sur Atos. C'est que lorsque vous êtes créancier d'une entreprise comme celle-là et que vous voyez le risque arriver sur l'exploitation, qu'est-ce que vous faites ? Vous couvrez vos positions. Et c'est cette couverture qui pèse sur les cours de bourse. Le seul moyen de garantir quand vous êtes créancier, c'est quoi ? C'est vendre le titre en face à découvert. Et donc, vous avez une spirale de défiance qui est quasiment inéluctable. Ouais. Et ça arrive aux covenants bancaires et ça arrive à... C'est l'arbre de destruction massive qu'on a qualifié...
D'autodestruction massive.
Ouais. On sait très bien résoudre ce problème. On l'a fait à une époque pour les banques. Pour citer un autre secteur qui pourrait être un peu comparable, Air France. Air France, est-ce que c'est stratégique ? Oui, il y a une continuité territoriale, on peut dire c'est stratégique. C'est pas stratégique pour tous les voyageurs, on est bien d'accord. On peut très bien partir en vacances sur la France. Mais pourtant, l'État est venu amener quelque chose qui ne coûte pas très cher et qui amène la solution à ce problème-là, ça s'appelle une garantie. Mmh. Quand on a garanti les dépôts bancaires à une époque, quand on a garanti la dette d'Air France à une autre époque, on a sorti les groupes de cette spirale spéculative négative. On pourrait parfaitement envisager, dès lors qu'on considère qu'Atos est un actif stratégique, et je peux quand même rappeler qu'en 2021, le plan cloud, le plan IA, on en entend parler tous les jours.
Le plan quantique, comment, hein, c'est un gros acteur du quantique. Hein.
Commençons par sauvegarder les actifs qu'on détient déjà. Et encore une fois, ce n'est pas très coûteux pour l'État que de simplement venir garantir.
Guillaume Wenis, c'est ça qu'il faudrait pour Atos ?
Il faut compléter ça par une vision industrielle. Bon, depuis des années et des années, on se retrouvait avec une direction, un conseil d'administration, où il n'y avait pas un seul informaticien. C'était des hommes politiques, des financiers.
Ça arrive à d'autres boîtes. Hein. Enfin,
oui, mais il faut quand même, dans toutes les boîtes, on a quand même un certain nombre d'experts quand même. Et les solutions qui étaient toujours proposées, c'était des solutions de jeux de mécano, de Monopoly, je coupe la boîte en deux, je fais des choses, des placements. Non, nous avons tous été confrontés à ce type de crise. Ouais. Mais tout le monde a réagi en disant, bon, mais qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir mes clients, je vais augmenter mes prix, je vais aller chercher d'autres offres. Je fais des sessions, bien sûr.
Or, on a l'impression que le conseil d'administration a systématiquement refusé les offres qui lui ont été proposées, quand même.
En tout cas, ils n'ont jamais réfléchi en tant qu'industriel.
Ou alors, ils ont proposé beaucoup trop cher.
Ils réclamaient plus cher, vous voulez dire?
Oui.
Il y a quand même deux problèmes majeurs chez Atos, qui sont d'abord la politique d'acquisition très importante qu'il y a eu chez Atos pendant plusieurs années. Ça avait été dit par l'ancien président d'Atos, Bertrand Meunier, dans une interview, où il disait effectivement qu'il reconnaissait qu'Atos avait fait beaucoup d'acquisitions, peut-être payées trop cher, d'où le sujet des survaleurs. Et là, ce qui est moins dit, mais ce qui se dit beaucoup dans le milieu des affaires, sur, on va dire, une gestion de la comptabilité un petit peu baroque chez Atos, où quand vous prenez des contrats, vous chargez peut-être un petit peu les revenus espérés, et à la fin, vous les avez pas. Et cette stratégie-là, et tout le milieu des affaires le dit, mais c'est un tabou chez Atos.
Mais ce qui veut dire, quand vous ouvrez les comptes, vous voyez ça, et c'est pour ça qu'après, vous en voulez plus.
C'est aussi, ça pose la question de l'héritage du PDG d'Atos de l'époque, qui était là pendant 10 ans, qui est Thierry Breton. Donc personne n'en parle parce que c'est tabou. Mais c'est quand même une question qui se pose. Donc lui, effectivement, quand on l'interroge, dit, moi, quand je suis parti en 2018, la boîte allait bien, le cours de bourse était très élevé, puis ça s'est effondré après. Mais quand vous avez un patron qui était 10 ans à la tête d'une entreprise comme celle-là, et qui, 4 ans après, passe tous les ans des centaines de millions d'euros de dépréciation d'actifs au bilan liées à des acquisitions qu'il a faites, il faut quand même poser la question de sa responsabilité.
Mais justement, on ne va pas repartir sur une nationalisation d'Atos, mais il faut quand même penser que là vient de sortir un rapport interministériel sur l'IA générative. On nous dit quoi? La formation, il faut du supercalculateur, il faut de la data. Tout ça, c'est les métiers d'Atos. Donc on se dit à un moment, quand on parle de garantie de l'État, il serait temps que l'État peut-être prenne ses responsabilités, dise, on sait qu'il faut foncer dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Là, on a un acteur en plus qu'on pourrait un peu sauver, mais sur les compétences duquel on pourrait s'appuyer, ben c'est là où il faut jouer.
Guy, on finira là-dessus. Qu'est-ce qui peut arriver de mieux à Atos ?
Ah, je crois que c'est d'être pris par un industriel. Enfin, moi, je resterai toujours ce regard. Je pense qu'il y a, avec ce fonds de commerce, beaucoup de choses à faire.
On parle beaucoup de Dassault en ce moment ?
Oui, enfin, bon, je peux pas dire quel type d'industriel, mais en tout cas, et d'ailleurs, à mon avis, je serais surpris qu'un industriel reprenne l'ensemble, hein, mais que ça soit un certain nombre de spécialistes tels que ça a été envisagé, hein, Airbus pour BDS, OnePoint pourquoi
mais
pas.
Oui, mais ça a échoué à chaque fois sur les valorisations.
Oui, c'est une question de valorisation.
Et puis des désaccords franco-allemands, hein, chez Airbus, parce que les Allemands trouvaient peut-être à raison qu'on payait ça trop cher.
Ça changera peut-être pour Airbus, mais au global, je pense que ce fonds de commerce qui a une très grosse valeur industrielle devra être pris dans l'intérêt général.
Ouais, François.
Ça ne sera possible que dès lors qu'on aura une vision claire du bilan.
Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la barre du tribunal ? Est-ce qu'il faut...
Moi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable, évidemment. Mais... je pense non plus qu'il n'est pas souhaitable pour le groupe qu'il soit, et pour les actionnaires actuels du groupe, qu'il soit démantelé, comme ça l'a été proposé, avec parfois des prix qui étaient absolument ridicules. Et donc, à un moment donné, la défense de l'actionnaire minoritaire doit s'exprimer. On a eu des associations puissantes pour faire cela. Je regrette qu'elles ne soient pas plus montées au créneau qu'elles ne le sont actuellement, ou en tout cas plus entendues qu'elles ne sont actuellement, par rapport aux actionnaires qui, quand même, ont tout perdu dans cette histoire.
Merci à tous les quatre d'être venus débriefer le dossier Atos.